maison en béton et dans une maison en terre,
ouais.
ça n'a rien à voir. Tu commences dans ce métier, on vient avec beaucoup de rêves, beaucoup de belles intentions. J'ai compris que moi, mes rêves ont été toujours tournés autour de l'engagement. Où est-ce que tu pars? On t'arrête, on te dit, viens prendre du thé.
Et on ne peut pas construire au Maroc comme on peut construire en France.
Notre travail, c'est vraiment d'accompagner les personnes sinistrées et donner une réponse constructive.
Bienvenue dans ce premier épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Zineb Ben Abdelazir, une très bonne pote à moi et qui est aussi architecte. Zineb a été diplômée en 2022 à Paris-Val-de-Seine et a poursuivi sa HMO qu'elle a obtenue en 2023 en travaillant chez Coblock Architecture. Elle a lancé son propre podcast en avril 2021 et honnêtement, c'est une de mes meilleures amies et une des personnes que je respecte le plus dans mon entourage. Ce premier épisode de podcast a été incroyable. On a parlé d'énormément de choses ensemble. On a parlé de son parcours, de sa HMO au Bénin, de ses rêves. On a aussi parlé de son action associative avec le collectif ADAPT et de tout le travail qu'elle a fait dans l'Atlas marocain. On a parlé d'héritage, de culture, de ce qu'on pense être le futur de l'architecture marocaine. Et honnêtement, c'était une discussion que je trouve pleine d'espoir et que j'ai énormément appréciée. En tout cas, j'espère que vous passerez un bon moment. C'est parti pour le podcast. Merci d'être venu pour aujourd'hui.
Trop bien, je suis trop content d'être là, vraiment.
En vrai, je suis super content de faire ça pour la première fois. Du coup, pour ceux qui ne savent pas, c'est un podcast que je veux lancer pour parler d'architecture avec des architectes. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec Zineb.
Génial.
Donc, la question avec laquelle je veux bien commencer, c'est, tu penses que la responsabilité d'architecture, c'est quoi ?
En fait, moi, je pense que c'est une très grande question pour trop peu d'expérience. Non, mais c'est vrai. En fait, quand tu débutes et tu commences dans ce métier, on vient avec beaucoup de rêves, beaucoup de belles intentions, etc. Et quand tu es dans le milieu, tu te rends compte que c'est autre chose, qu'on est à des allées. En fait, la responsabilité, c'est même plus une notion qui est importante. Il y a peu d'agences d'architecture qui ont vraiment ce sens de responsabilité parce que tu as le côté financier et matériel qui passe au-dessus de tout. Et donc, si quand tu compares ton aspect matériel à ta responsabilité, tu as toujours l'aspect matériel qui va prendre le dessus. Mais donc, pour moi, la responsabilité de l'architecte, bon, moi, il y a deux domaines principaux. Il y a tout le côté environnemental. Il me semble qu'un architecte, c'est 1000 tonnes par an de CO2.
Ah ouais?
Ouais, il me semble. Soit l'agence. Bon, il y a des données, on pourra le... Un acheteur de travail. Je t'enverrai l'info.
Super, merci.
Donc, il y a ce côté-là. Et ce côté-là, pour moi, il est directement lié au côté de l'homme. Mm-hmm. Je pense qu'il y a une réelle importance anthropologique à prendre en compte, mm-hmm. et qui est complètement oubliée. Et donc, en prenant l'exemple, d'ailleurs, on va en parler après, des personnes qui ont été sinistrées suite au séisme au Maroc de l'Atlas du 8 septembre. Quand tu compares le confort de vie que ces personnes vont avoir dans une maison en béton et dans une maison en terre, ouais. ça n'a rien à voir.
Non,
en termes de thermie, en termes d'espace, et ainsi de suite. Donc, la responsabilité de l'architecte, c'est de respecter les coutumes, les pratiques habitantes, les modes d'habiter, les façons de faire, etc., locales, face à une architecture qui est très standardisée, qui est très bétonisée, où il y a une façon de construire qui est déjà établie et qui est très difficile à déconstruire, même si on a envie de le faire, et donc qui est complètement lié aux aspects environnementaux.
Ouais, ça, en vrai, je suis même tout à fait d'accord avec toi. C'est un peu la question qu'on se pose quand on commence, parce que on a tous ces rêves de faire de l'architecture super locale, c'est vraiment les grands yeux.
Ça dépasse pas le stade du rêve.
Ça dépasse pas le stade du rêve. Mais justement, en parlant de rêve, c'était quoi tes rêves d'architecte?
Alors, mes
parce
rêves
que justement, j'ai envie qu'on les compare à ce que tu vois de la réalité du métier et comment tu penses qu'on peut changer ça, en fait.
Merci, Anas, j'ai vraiment envie de rêver, donc ça fait du bien d'avoir cette question. Alors, j'ai compris. Alors, quand tu as 18 ans et tu cherches à faire ton métier, nanana, donc déjà tu commences pas à réfléchir à 18 ans, tu commences à réfléchir bien avant.
Ouais.
Et indépendamment de ta famille, encore plus. ou de ton milieu, pas forcément ta famille. Alors, j'ai compris que moi, mes rêves ont été toujours tournés autour de l'engagement. Mmh. J'ai toujours voulu participer à une communauté, faire grandir une communauté et m'engager socialement et physiquement et mentalement et intellectuellement pour cette communauté. Donc voilà, c'est ça mon rêve, c'est d'être engagée pour l'homme avec un grand H et aider des gens. Et oh, je vais te raconter un truc.
Vas-y.
Quand j'étais petite,
ouais.
Je devais avoir... Est-ce qu'on est, on est bilingue ou pas dans ce podcast?
Vas-y, on okay. s'en fout. Bon, au pire, bon, on mettrait des sous-titres.
Non, 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 on n'aura pas besoin de sous-titres. Mais comme ça, on est naturel. Genre, on est qui on est, tu vois.
Exactement.
On est un peu des hybrides.
On est un peu des hybrides.
Bref, donc j'avais 8 ans et tout. Mm-hmm. J'étais en mode, maman, j'ai un rêve. J'ai envie d'aider les personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent en Afrique. Mm-hmm. C'est mon rêve d'aller là-bas, de les aider. Et parce que voilà, bien sûr, on a cet imaginaire commun que les personnes en Afrique ont très peu de moyens et que nous, grands sauveurs nord-africains, on va les aider, etc. Bref. Et je lui disais ça au calme qui est vraiment... Je pleurais. Mm-hmm. Je traduis moi-même ce que je dis.
Non, mais t'inquiète. Hein.
On vit le cas et tout. Et maman, elle me dit, écoute, si tu veux aider des gens, déjà aide les personnes qui sont autour de toi, juste les personnes qui sont dans la montagne, aide-les, tu vois. Et, ou des personnes qui sont dans des endroits qui sont reculés, qui ont beaucoup moins de moyens au Maroc, etc. Voilà, tu peux faire ça. Et je lui dis, ouais, maman, t'as trop raison. Funny story, mm-hmm. 10 ans plus tard, même plus, allez, 15 ans plus tard, et je fais la transition pour le reste. Ben, je reviens d'une super expérience en Afrique de l'Ouest où j'ai travaillé. Je n'ai pas aidé des populations dans le besoin en Afrique de l'Ouest. Je travaillais en tant qu'architecte au Bénin. Mais je suis partie en Afrique subsaharienne. J'ai découvert. Donc, j'ai une idée de ce que c'est l'Afrique de l'Ouest. Donc, tu vois, j'ai répondu à un peu Zineb de 8 ans qui disait, j'ai trop envie d'aller en Afrique subsaharienne. Et j'ai aussi répondu à maman qui m'a dit, oui, mais déjà aide les gens qui sont autour de toi. Suite au séisme, je fais partie d'une asso avec laquelle on travaille sur ces questions-là. Donc voilà. Donc mon rêve a toujours été celui-ci. De manière très drôle, je garde ce souvenir de moi quand j'étais petite qui dit oui, j'ai envie de faire ça. Et sans le savoir, je suis en train de le réaliser.
En fait, c'est super cool. Franchement, non, mais ce que j'adore, c'est que ça donne juste. J'ai l'impression que tu sors un peu des sentiers battus de la carrière d'architecte et des trucs comme ça. Et moi, je vois plein de gens, quand ils finissent leurs études, enfin, le premier truc qu'ils essaient de trouver, c'est un emploi stable, et ça se finit là.
Mais moi, la première, hein, c'est ce que j'ai fait.
Ouais, mais ce que t'as fait, mais t'es quand même allé au Bénin pour faire ta HMO.
C'est vrai.
Et pour le coup, ça, c'est pas quelque chose que n'importe qui aurait fait.
Complètement.
Et en vrai, parce qu'on n'a pas parlé tant que ça du Bénin entre nous deux.
Ouais, c'est vrai.
C'est vrai.
Mais non, Zineb, une fois que tu me racontes, moi, tu dis, Anas, on n'a pas
encore. Il a fallu faire une vidéo pour qu'on en parle au final.
Ouais, on peut en parler pendant des heures. Hein,
mais... Vraiment. Mais pour le coup, bah, je veux qu'on s'attarde un peu sur le Bénin avant de partir le collectif. Mais je veux savoir, c'est. Parce que tu étais à une période très particulière. Enfin, il y avait la Coupe du Monde et le Maroc qui nous faisait rêver. Et en fait, je voulais juste savoir, au Bénin, en fait, si tu devais retenir une seule chose de ton temps passé là-bas, ce serait quoi ?
La légèreté de la vie. En fait, on vit dans un monde qui est tellement capitaliste, mm-hmm. Où on fait une course contre le temps. Matalan, par exemple. j'ai été 20 minutes en retard pour arriver là, tu vois. Et en fait, 20 minutes, c'est quoi ? C'est rien. Tu vois, et moi, je culpabilise et tout parce que je suis arrivée 20 minutes en retard et tout. Alors que là-bas, j'avais l'impression d'avoir le temps de faire tout ce que je voulais. Je nuance mes propos. J'étais avec une amie à moi du Bénin. Elle est française, mais on s'est rencontrés au Bénin. On a déjeuné ensemble cette semaine. Et elle me dit, mais Zineb, rappelle-toi que quand t'étais au Bénin, t'étais pas si heureuse que ça, tu vois. En fait, si. Oui et non. Mais en fait, je retiens aujourd'hui que des choses positives. Parce que c'est aussi... J'ai une mémoire très sélective, je me rappelle que des trucs trop bien, j'oublie des trucs qui sont pas top. Mais quand j'étais là-bas, je disais c'est dur d'être loin de ses proches, C'est dur de. Les gens n'avaient pas beaucoup cette spontanéité qu'on pourrait avoir ici à Paris de. Ah, tu vois, Anas, ça m'est arrivé plusieurs fois d'être en bas de chez toi par hasard et de te dire, ah, j'arrive tout de suite, tu vois. Ou cette spontanéité qu'on a encore plus au Maroc de tu vas chez les gens sans même pas, sans même les prévenir. Moi, c'est quelque chose avec lequel j'ai grandi et qui m'importe. Enfin, c'est trop important pour moi de cultiver ce rapport très proche avec les gens. Et j'arrivais pas à voir ça au Bénin, c'est normal parce que je suis restée 7 mois et en 7 mois. Aller chez des gens sur un coup de tête et construire des relations fortes, c'est très difficile. Donc ça, d'une part. Ça, c'était le côté qui était négatif pour moi. Je travaillais énormément, mais j'étais hyper épanouie. J'adorais mon travail, vraiment. Fun story, je raconte des petites anecdotes, mais pendant mon oral de HMO, l'habilitation, l'exercice de la maîtrise d'avoir mon propre,
Let's
bref,
go, tu l'as dit d'une traite.
à force. En fait, on devait faire une présentation pour décrire notre expérience professionnelle. Et donc, je devais faire les aspects négatifs, les aspects positifs. Maintenant que je le raconte, ça me fait hyper rire. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, comme ça, genre vraiment, tirkafine, genre j'étais au max, j'étais très confiante. Je disais, alors moi, pendant mon expérience professionnelle, je n'ai pas eu de côté négatif. C'était que positif. Donc, je vais classer les caractéristiques de mon travail du plus positif au moins positif.
C'est top.
J'avais plus, 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 et plus, 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 plus. Genre,
Le jury, il a reçu ça comment?
bah en fait, c'était un peu, genre, c'était un peu trop parce que mes boss étaient là en visio et ils m'ont hyper saucé. Ils m'ont dit, ouais, Zineb, elle était hyper investie, elle travaillait à fond. Genre, ils étaient trop à fond. Moi, j'ai fait que dire des plus. On dirait que c'était une famille trop heureuse. Youhou. Genre, on dirait que je sortais d'un dessin animé, c'est des bisounours, tu vois. Bref, et du coup, bon, voilà, ça c'est pour raconter à quel point j'étais hyper épanouie dans mon travail. Et après, pour finir, en fait, là-bas, les gens, ils prennent le temps. Ils prennent le temps de vivre. Il n'y a pas Zara, il n'y a pas Trabert, Mango, capitalisme, achète des habits, il n'y a pas trop de choix de culture, trop de choix de nourriture, trop de choix de vestimentaire, trop de choix de Amazon, je dois acheter ça, si je n'ai pas le dernier sac, je ne vais pas réussir à être jolie, il me faut ça, ce maquillage. Oh.
Donc tu t'es senti libéré.
Mais je me sentis libre. Parce que, tu vois, nous qui avons grandi au Maroc, qui sont marocains et qui passent notre vie à faire des allers-retours, tu vois, quand on est venu en France, on n'est pas anonyme. On est faussement anonyme parce que tu peux être très bien à Paris en train de te balader, tu vas rencontrer la meilleure amie de ta mère qui est venue passer une
Ben
semaine.
vraiment.
Tu vois, ou tu peux te rencontrer. Enfin, moi, ça m'arrive de rencontrer des gens qui étaient avec moi au lycée, même ma famille. Un jour, j'étais dans la rue, j'ai rencontré ma cousine.
À l'aéroport. Tu croises tout le temps des gens que t'as pas vus depuis 2-3 ans parce que vous êtes sur le même vol pour rentrer à la maison.
Je me dis, qu'est-ce que je vais rencontrer aujourd'hui?
Mais
Genre.
vraiment, c'est la checklist à chaque
Ah,
fois.
exactement, je dis, alors qui est-ce que. Genre, parfois, je me fais même des paris, je pense que cette personne, elle doit être aussi en vacances. Bref. Mais là, je connaissais personne et personne ne me connaissait.
Ah, ça devait être.
Libérateur.
Ouais, ça devait être
Parce que
incroyable.
j'étais pas si différente, j'ai pas changé, tu vois. Mais j'étais libre. Genre, j'étais vraiment libre et ça, c'était incroyable.
Et tu penses que cette liberté, elle a influencé un peu ton architecture ou tu considères que les deux choses sont séparées?
Non, parce que quand je travaillais, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'avais beaucoup de liberté de conception, mais j'avais pas du tout assez confiance en moi pour en profiter. Et même, je pense que j'étais pas même assez compétente et j'arrivais pas encore à comprendre les besoins et la façon de dessin, comment l'agence dessinait, tu vois,
Ouais.
comment leur façon de faire pour que moi-même je puisse le faire. En même temps, en quelques mois, c'est compliqué, mais c'est vrai que j'aurais pu prendre un peu plus d'initiative. Mais après, je l'ai fait. Bon, j'ai pas envie de me prononcer sur ça, mais j'ai fait un choix architectural pour un bâtiment dans un super gros truc sur lequel on a travaillé. Bref, un choix de couleur. Et ce choix de couleur, on l'a fait avec des collègues, etc. Mais c'est quelque chose qui a été retenu. Et quand tu vois dans un super grand projet que tu as eu une idée avec des collègues et que c'est quelque chose qui a été retenu, Ça fait du bien au cœur, surtout que j'ai encore le dessin sur un de mes carnets.
Ah, c'est magnifique.
Qui est à Marrakech de Sceaux.
Ah, vrai, c'est dommage, on aurait aimé l'avoir pour aujourd'hui.
Mais après, si le bâtiment se fait vraiment comme ça et j'ai encore mon carnet avec le dessin, c'est un trop beau souvenir.
Bon, on en fera un épisode 2.
Le jour où j'ai pris des crayons de couleur au travail.
Non, mais ça, je pense que c'est peut-être l'une des premières concentrations. Oula. Je pense que c'est l'une des premières consécrations qu'on peut avoir en tant que jeune architecte. Un petit choix minime sur un projet, ça représente tellement pour nous.
Complètement. Après, tu vois, c'est quand tu fais ça que tu apprécies ton métier.
Ouais.
Parce que tu comprends l'impact visuel que ça a sur un espace urbain.
En fait, c'est le moment où ça se concrétise. C'est là que je trouve qu'il y a le plus de récompense. De sentir que ce que tu as dessiné va avoir un impact sur la vie des gens. Et pour peu que tu sois fier de ce que tu as conçu, pour moi, ça vaut tout l'or du monde.
C'est la magie qui opère.
C'est la magie qui opère. Et en parlant de magie, je ne sais pas si on peut vraiment parler de magie, mais en tout cas, j'ai adoré tout ce que tu as partagé sur le Bénin. Maintenant, on pourrait creuser encore plus.
Ouais.
Mais je voudrais qu'on fasse en fait la transition sur le collectif.
Let's go!
Mais j'ai envie que tu me racontes un peu l'histoire du collectif. C'est-à-dire comment... Bah, comment t'es venue l'idée, avec qui tu l'as montée, et est-ce que c'est quelque chose qui te trottait dans la tête? Est-ce que ça fait un moment que ça te trotte dans la tête?
Alors,
ouais.
J'avais commencé l'initiative avec des personnes qui étaient autour de moi, qui n'a pas prise. En parallèle, il y a eu une annonce de la part de Val-de-Seine, notre école d'archi, qui était en mode « Ah, on va faire une réunion, etc. » Et cette réunion, elle était portée par une amie à moi qui s'appelle Alia, et qui porte encore aujourd'hui cette initiative. Et c'est elle qui est à l'origine. Mmh. Et elle est très motrice. Le temps a passé et j'ai plus de nouvelles après cette réunion. J'ai un ami très proche qui m'écrit, qui me dit « Oui, Zineb, il y a une deuxième réunion et tout. Regarde, je fais partie de la réunion. » Et là, d'un coup, c'était en décembre. Et depuis ce jour, on se parle presque tous les jours avec le collectif.
Magnifique.
Oui, on se parle presque... Ouais, on se parle tous les jours, on a voyagé ensemble. Maintenant, en fait, bon, je suis très sensible et je m'attache très vite. Donc maintenant, vraiment, je suis hyper heureuse parce que c'est très difficile de trouver des Marocains architectes qui réfléchissent comme toi. Et le fait d'avoir trouvé ces personnes qui ont les mêmes engagements, qui ont les mêmes envies, qui ont les mêmes problématiques, c'est hyper inspirant. Et je suis hyper reconnaissante parce qu'on a une façon de fonctionner qui est hyper bienveillante. Et... je pense que on est chacune plus un chacun. C'est plus, il y a que des filles. Je reviendrai sur ça d'ailleurs. J'ai trop
envie. Ouais, j'avais envie de te poser la question d'ailleurs.
Et donc, déjà le projet en lui-même est faramineux, mm-hmm. mais la bienveillance et le travail qu'on fait ensemble est aussi super important pour moi parce que maintenant, j'ai l'impression que au-delà du travail qu'on fait ensemble, vraiment, maintenant, moi, je me suis vraiment attachée à ces personnes-là et je suis très heureuse de les avoir connues.
Ah, c'est magnifique.
Ouais, c'est très cool. Bon, je suis très intense.
C'est pas grave, on est là pour ça.
je romantise hyper les choses, etc., mais c'est comme ça que je les ressens.
Tu m'étonnes. Et justement, parce que je veux en parler, le fait que ce soit... Parce que vous êtes partie faire une visite dans l'Atlas marocain récemment. Ouais. Le fait que vous soyez que des femmes, parce que c'est peut-être une idée que j'aimerais casser, ou en tout cas en savoir plus dessus. Est-ce que vous sentez que vous avez eu un traitement différent quand vous êtes arrivé là-bas, ou le fait que vous étiez architecte vous a donné directement
un certain
respect?
Donc, on est parti avec Alia et moi, et du coup ses parents, elle, en visite. On était accompagnés par Siham Azarwal, qui est fondatrice de Moroccan Doors et Atlas Rebuild. C'est une fondation et une start-up sociale qui a pour but de revaloriser et requalifier les régions de l'Atlas. Et donc, elle a beaucoup d'aura et on la connaît. Donc, les gens lui font confiance. Et donc, pour répondre à ta question... déjà, je fais partie de plusieurs assos et ce que je vois, c'est que c'est principalement des femmes. Et après, quand tu vas sur des sites et tu vois qui est-ce qui rule the world, genre qui fait partie des grosses entreprises, tu vois que des visages d'hommes. Et là, tu te poses quelques questions. Il y a ça d'une part. Et après, pour revenir à notre visite dans l'Atlas, Alors, on n'a eu aucun traitement différent parce qu'on n'est pas à Mazières. On n'est pas de la région. Nous, on était plus de la région du Sousse. On était dans la province de Taroudant et pas la province de l'Haouz. Alors, pour expliquer, le séisme a touché plusieurs provinces. Celle de l'Haouz, c'est un choix de ne pas travailler là-bas parce qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui y sont déjà dessus. Alors que la province de Taroudant, elle est, de ce qu'on sait, à nuancer évidemment, elle n'est pas autant prise en charge que l'Haouz.
Est-ce que tu penses que c'est parce qu'elle est plus difficile
Plus
d'accès?
difficile d'accès, et l'Haouz dépend de Marrakech. Donc Marrakech, donc c'est pas le c'est pas les mêmes, en fait c'est pas les mêmes acteurs. Du coup voilà. Et donc on est principalement des femmes parce qu'on était que des femmes et le papa de Alia. On n'était pas berbères, pas amazigh, et on a eu un traitement. En fait, les gens là-bas, ils sont. Tu vois, quand je te parlais de liberté de vie qu'il y a au Bénin, c'est la même liberté et la même légèreté. Là-bas, c'est fin ma katmchi, aji tchrb atay, afak aji tchrb atay. Traduction. Où est-ce que tu pars? On t'arrête, on te dit, viens prendre du thé. On s'est arrêté pour demander la route à 3000 mètres d'altitude dans un endroit paumé. Et on lui a dit, là, là, là.
C'est magnifique, c'est magnifique.
Tu vois, on t'arrête n'importe où, on te dit, non, tu dois boire un thé. Et c'est tellement. En fait, je lui ai dit, ouais, boire un thé, c'est pas important. Mais non, c'est pas ça. C'est comment les gens sont accueillants, c'est un autre niveau. C'est incroyable. C'est des gens qui ont tellement à donner. C'est fou. Mais donc pour conclure, j'ai pas envie de répondre je réponds à chaque fois un peu autour
C'est
de la
pas grave, c'est ça qui est intéressant, nous on veut savoir tout ça justement.
Donc non, j'ai pas senti un bout de sexisme. Ah, quoi que si, j'ai une histoire
Ah!
très drôle. Alors en gros, on est parti dans trois douars, dont deux où on s'est beaucoup où on s'est on
Tu
a
pourrais nous
parlé.
expliquer ce que c'est un douar, pour ceux
Oui,
qui
ok.
savent pas?
Alors, Douar, c'est une sorte de village à une plus petite échelle. Douar, c'est ce qu'on utilise pour dire un pâté de maison en darija,
Ouais.
en arabe dialectal marocain.
Ok.
Voilà.
Ok.
Et donc, on était une première fois dans Douar, 7 km de piste pour accéder depuis la route principale. On a plus de 1500 mètres d'altitude,
Wow.
paumé.
Wow.
Alors, je sais pas pourquoi on parle de ça et tout. On leur disait, ah, est-ce que vous nagez dans l'Oued, dans la rivière, etc., etc. Ils nous disent non. Notre papa, il nous a dit, c'est ib, ça veut dire c'est mal vu de nager en tant quand on est une petite fille. Et on a reparlé du même sujet. Et nous, bien sûr, on était en mode là, non, vous êtes des femmes, vous faites ce que vous voulez, vous devez stand up for yourself, ne vous laissez pas faire. Les garçons, s'ils veulent pas, si vous laissent pas nager, c'est à eux de partir. Vous, si vous voulez nager, et vous nagez qu'entre filles, si vous êtes plus à l'aise, bien sûr, nagez qu'entre filles, et eux, ils vous laissent tranquille, blablabla. Ça, c'était notre discours. Et on a re-eu la même discussion dans un autre douar. Et on leur disait, ouais, enfin, tu vois, tout ce discours un peu
Girl power.
girl power. Et ils étaient en mode, ouais, mais là, les habitants du Douar étaient en mode, ouais, mais maintenant, les femmes font de plus en plus ce qu'elles veulent, on ne peut pas les arrêter, etc. Tu vois, donc, à la fois, on a une pédagogie architecturale, tu vois.
Ouais.
Genre, nous, c'est ça notre intention. Mais on a également une pédagogie.
Social.
Non, mais parce que c'est pas nous qui allons leur apprendre le féminisme.
Bien
Parce que nous,
sûr.
notre but, c'est pas de dire, nous, des personnes qui sont occidentalisées, on va vous apprendre c'est quoi le féminisme. Alors là,
Nous,
t'inquiète.
les grands sauveurs occidentaux.
Même pas, on n'est pas
On n'est
occidentaux.
pas occidentaux, mais...
Nous, les grands sauveurs.
Ou l'aide Descartes, ou
Non,
l'aide...
non, 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 non. Tu connais le même. Adam World Commercial Mughrib.
Ah oui,
Voilà, mais c'est vrai, Anna
ouais,
leur dit,
c'est vrai.
vous avez raison les gars, on peut pas, on est labellisés, il n'y a aucun problème.
On est from Morocco.
Ouais, on est from Morocco, man kitbouch ala rasna, ma kintam bouchi. Bon bref, traduction, ne nous mentons pas, il n'y a aucun problème. Bref, et du coup, je me disais, enfin, c'est pas tant, non en fait, les femmes doivent être libres, elles portent ce qu'elles veulent, etc. C'est pas ça, c'est que notre approche était de dire, si elles décident de s'exprimer, donnez-leur la chance de faire ce qu'elles veulent. Voilà.
Donner l'initiative du discours.
Oui, c'est juste que je pense que ça aura peut-être que ça aura aucun impact, tu vois, ça c'est sûr, mais c'est juste que c'est très important d'avoir des role models. Je sais pas comment on traduit ça en français.
Des modèles.
Mais c'est pas aussi impactant.
C'est pas aussi impactant, mais je pense que tu peux dire role model, les gens ils vont capter le truc.
Mais c'est tellement important d'avoir ça dans la vie. Ça te permet de te projeter, tu vois. Et donc ces femmes-là, si elles ont envie d'avoir des role models, c'est trop bien de venir. Et parce que tu vois, on n'était accompagné que d'hommes. Les femmes, on n'est pas resté avec des femmes. Il n'y a que des hommes qui nous accompagnent pendant nos visites dans les tours.
Ouais.
Voilà.
Et j'imagine que tu as dû quand même apprendre énormément de choses quand tu es passé là-bas. Alors, est-ce que tu peux nous... Parce que j'ai vu dans des stories, tu montrais... Il y avait des courants d'eau qui ont été révélés après le séisme et qui étaient utilisés pour plein de choses. Je ne saurais pas te dire exactement, justement, je voulais te poser la question là-dessus. C'est quoi les choses qui t'ont étonné quand tu es allée là-bas?
Alors, moi, je suis très triste de ne pas connaître cette région. Très triste de... On parle beaucoup du Maroc profond. Et on a... C'est le vrai Maroc, etc. Et moi, ce n'est pas des endroits dans lesquels je suis partie. Et ça me rend triste. Ce n'est pas des endroits sur lesquels on communique. Ce n'est pas des endroits sur lesquels on a des films. Ce n'est pas des endroits sur lesquels on fait des expos. C'est quoi, tu vois, ce n'est pas un endroit qui se partage par la culture ou de l'extérieur. Tu vois. C'est un endroit qui est préservé. Et c'est des populations qui sont très hétérogènes. Vraiment, s'il vous plaît, nuancez mes propos. Qu'on ne connaît pas vraiment quand tu viens de la ville. Et si toi, tu n'as pas fait l'initiative de partir, bien sûr que quand tu es au lycée à Marrakech, bien sûr que tu as fait etc. Mais tu n'as pas fait Tahnaout, tu vois. Donc tu t'arrêtes à Tahnaout qui n'a même pas 36 km de Marrakech. Donc ce n'est pas représentatif de l'Atlas, l'Anti-Atlas et toutes les régions autour du Tizi Ouzou, du col du Tizi Ouzou. Le Tizi Ouzou, c'est un col dans l'Atlas. Bon, bref. Et ce que j'ai appris, c'est qu'il y avait trois façons d'être Amazigh. En gros, non, les Amazigh ont trois... je suis trop désolée si je me trompe, mais c'est trois valeurs. Leurs origines, leurs ancêtres... Ne veux pas sortir en fait. Comment respecter leur façon de faire, la langue, et je pense leur rite et leurs coutumes. Je pense que c'est ça. Et donc, c'est très important pour eux. Par exemple, les enfants apprennent à parler Darija à l'école. Entre eux, ils parlent que Tassoussit. Parce que j'ai aussi appris, tu vois, Matalan, il y a Tassoussit, Tarifit et Tarnifirt. Tarnifra, Hadarif, Foussous.
On a eu un petit problème technique avec l'appareil photo qui s'est coupé en plein milieu. Donc, Zineb, on en était où
pour la question ? J'essaie de transmettre les valeurs séculaires des personnes amazighes,
ouais.
En vain, parce que je n'ai pas tout très bien compris.
En vain, non. Ouais.
Non, mais bon, en gros, c'est des populations qui sont très ancrées, qui ont une culture exceptionnelle et qui ont des façons de vivre qui sont magnifiques et qui ont un accueil incroyable. Et c'est des gens... c'était tellement touchant. Voilà. Et donc, il y a ça d'une part. Et d'autre part, quand j'étais là-bas, je me sentais tellement à ma place. Je me suis dit, en fait, là, je fais quelque chose que j'aime. Je suis proche. Alors moi, je suis une grande passionnée du Maroc. J'aurais très bien pu mettre un drapeau au lieu d'une écharpe.
J'aurais pu l'accrocher sur le fond.
J'aurais été capable de le faire. J'ai même des chaussettes Maroc. J'ai plein de trucs, j'ai plein de goodies. Bon, bref. Et donc, je me suis sentie tellement bien. C'était trop bien. C'était génial. J'ai aimé que ces personnes soient... Je pense que c'est ce qui est le plus proche à notre pays. C'est qu'on a une culture qui est très forte. Et donc, on a une identité séculaire, exceptionnelle. Moi, qui me touche énormément. Donc, voilà.
Et parce qu'il me semble que là... Ouais, en vrai, c'est quelque chose qu'on voit chez la plupart des... Même chez les immigrés marocains. En général, que ce soit toi ou que ce soit moi ou que ce soit d'autres personnes.
On est vraiment des immigrés.
Bah.
On est des temporaires.
Temporaires. Temporaire, ouais. Inch'Allah. Mais ce que je voulais te dire, c'est on parlait un peu des techniques
De
de
construction.
construction, techniques ancestrales. En fait, un de mes objectifs en architecture, c'est de pouvoir faire revivre les traditions. Que on en parlait de cette architecture qui est standardisée, et parfois à raison, parce qu'elle a permis d'apporter un certain confort et a permis de le démocratiser. Mais aujourd'hui, je pense que c'est plus un modèle qui est, je pense que c'est plus
Viable.
un modèle qui est viable. Et on ne peut pas construire au Maroc comme on peut construire en France, on ne peut pas construire en France comme on construit au Maroc. Moi, mon rêve, c'est vraiment de ramener les techniques traditionnelles de conception, de construction, voire même l'ornementation, n'en déplaise à Adolf Loos.
Moi, mon rêve, c'est de comprendre c'est quoi la façade d'un bâtiment marocain
Ouais.
contemporain. On n'a pas d'écriture
On
contemporaine.
n'a pas d'écriture
Pour moi, on ne peut
contemporaine.
pas, comme tu dis, pour notre esthétique architecturale ne peut pas être internationale. C'est triste, c'est dommage. On a une culture de l'ornementation et de l'esthétique qui est tellement forte. On a un des artisanats les plus anciens du monde pour faire une façade en béton et avec du verre, quand même.
Surtout qu'on a toujours eu, et ça c'est une question beaucoup plus large, on a toujours eu cette question de la pudeur qui se retrouve même dans notre architecture. Quand tu vas en Médina, quand tu regardes un riad, de l'extérieur ça paye pas de mine. Tu as peut-être la porte qui peut indiquer le niveau de richesse de la personne qui vit à l'intérieur, mais c'est juste une façade simple. Et moi en fait j'adore le fait de, tu rentres dans un bâtiment qui paye pas de mine, quand tu rentres à l'intérieur,
Tu
là
peux
tu as quelque chose, tu as une richesse
imaginer
qui est
une
folle.
cour avec un jardin, avec juste la culture du jardin. C'est quelque chose qui était très présent dans le film Naqbel. Il y avait beaucoup de jardins, etc. Maintenant, on n'a plus à la culture, alors que les gens en ont besoin, tu vois. C'est dommage.
Justement, qu'est-ce qu'on peut faire pour ramener
Qu'est-ce
ça?
qu'on
Est-ce que
peut
tu
faire?
penses qu'avec le collectif, tu essayes de ramener ça au goût du jour?
Notre travail, c'est vraiment d'accompagner les personnes sinistrées et donner une réponse constructive. Notre travail s'arrête là. Juste pour. Parce qu'il y
Et pas
avait.
réponse constructive. T'entends
Juste,
quoi?
justement, je reviens à cette première question. Alors, nous, de ce qu'on a remarqué, c'est. On pense, on n'est pas expert. On pense que les pathologies trouvées pour les constructions en terre et en pierre sont de l'ordre de l'entretien. Première chose à savoir, quand tu construis en terre, en parasismique, l'approche parasismique, c'est de dire que ton bâtiment va s'écrouler. Il y a de grandes chances. En fait, tu vois, il y a un moment où les ondes, elles dépassent. Elles dépassent ce qu'un bâtiment peut tenir. Donc, on peut dire que ton bâtiment va s'écrouler. Il faut juste construire de telle manière à ce que ça s'écroule, mais ça ne te tue pas. C'est bizarre, mais c'est comme ça que ça marche. C'est ça l'architecture en terre parasismique. Donc, on a remarqué qu'il y a beaucoup de maisons qui étaient délaissées, se sont écroulées plus facilement que d'autres maisons qui n'étaient pas délaissées. Et souvent, les maisons qui sont délaissées sont en pierre, en terre, en construction ancienne, alors que les constructions nouvelles en béton, vu qu'elles sont nouvelles, c'est pour ça qu'elles ne se sont pas écroulées, on y vit. Donc, si on voit une pathologie constructive, on va la réparer. Voilà. On a vu des maisons en béton et en terre et en pierre qui n'ont pas bougé. On a vu des maisons en terre qui n'existent plus. On a vu des maisons en pierre qui n'existent plus. On a vu des maisons de plus d'un siècle qui n'ont pas bougé. C'est très hétérogène. Donc, on pense qu'il y a une façon de construire, une façon de damer la terre, une façon, voilà, une précision constructive qui s'est perdue, mais qui est encore maîtrisable et qu'on peut retrouver. Et l'autre volet, c'est qu'il faut apprendre à entretenir un bâtiment, et c'est aussi ça qui s'est perdu. Et après, pour répondre à la deuxième partie de ta question, au Maroc, je pense le Maroc est un pays très dépendant de l'international. On n'est pas dépendant des aides, on n'est pas chaque 5 matins, chaque matin, on n'a pas la Banque mondiale qui nous donne 50 milliards d'euros, mais on a besoin de maintenir une image qui parle à l'Occident. C'est important dans notre direction artistique, notre DA de notre pays. C'est dommage, mais je pense qu'il faut insuffler ça. Et vu qu'on est un pays qui marche beaucoup avec la mode, si tu fais un truc à la mode dans le monde et que ça plaît,
Ah ouais?
tout le monde, pour moi, genre, tu fais un truc à la mode, tout le monde te suit. Ah ouais? Tu vois donc les maisons contemporaines d'Al-Nazil Morocco?
Ah oui.
Tu vois tout le monde à la même maison? Voilà, ça a été une mode, tout le monde a kiffé, tout le monde a fait la même chose. Si tu t'arrives à renverser la mode, à faire quelque chose qui est plus axé marocain et qui est vraiment esthétiquement OK, tu renverses et tout le monde suit.
Donc sauver l'architecture en Maroc, c'est rendre l'architecture marocaine à la mode.
Ouais.
Ça pourrait être une voie.
C'est une voie, mais bon, il n'y a pas que ça. Enfin, il y a beaucoup d'acteurs. Tu as les institutions internationales, tu as les institutions publiques, tu as les architectes. T'as les associations, donc c'est plus la partie des architectes. Bref, il y a beaucoup d'acteurs, mais ça doit être une volonté qui est politique.
Ça peut être une piste. Et pour revenir à ta visite, tu parlais de pathologie dans les maisons en pierre et en terre. Est-ce que vous avez compris en fait ce qui faisait qu'il y en avait une qui tenait et une qui tenait pas? Enfin, tu parlais de l'entretien et c'est une question qui est ultra intéressante. Est-ce que tu peux nous donner des détails en particulier?
Non, parce que c'est trop. On part sur beaucoup de techniques. Alors, un séisme, les ondes sont aléatoires. Ça
Ouais.
dépend de. En fait, tu peux être dans la ligne de l'onde et toutes les maisons sur la même ligne vont être écroulées. Alors que des maisons juste à côté, vraiment juste à côté, juste elles n'ont pas été sur la touche, sur la même onde du séisme, comme si de rien n'était. Donc tu vois, c'est ça le risque en fait.
Ouais.
C'est la résilience. Ça va s'écrouler, mais je suis capable de reconstruire. Je suis capable de le faire de manière économique. Je suis capable de garder mon foyer et je suis capable de rester en vie. Donc c'est très aléatoire et hétérogène.
D'accord. Donc, l'idée, c'est de voir quel système on peut mettre en place pour faciliter la reconstruction et la sécurité le plus possible.
Ouais, et en fait, il y a beaucoup d'acteurs qui sont déjà implantés sur le territoire et il y a déjà des façons de faire qui ont été imposées et ça dépend des droits. Ça, c'est un peu un schmilblick.
D'accord,
Tu
ouais,
veux des
donc.
détails?
Ouais, bah on est là pour ça.
Allez, on va prendre un. Allez. Vous êtes prêts? Let's go. Là, je m'adresse à la caméra. Dis,
Hein.
allez, on y va.
Let's go.
Alors, en gros, ce qui se passe, il me semble que chaque architecte a été nommé par rapport à un droit. Donc, par exemple, un architecte A est responsable du droit B. L'architecte, je pense que par maison, il gagne 3 000 dirhams. C'est avec le Omran. Les aides sont distribuées de la manière suivante. L'aide numéro 1, si ta maison a été partiellement touchée, tu touches 80 000 dirhams. Si ta maison a été complètement détruite, tu gagnes 140 000 dirhams. Et tu reconstruis toi-même ta maison avec l'argent qu'on te donne. Deuxième élément, cet argent est attribué par famille. Et en réalité, les gens habitent de façon polynucléaire. Tu peux avoir le grand-père qui a ses 3 fils qui habitent avec lui. Et donc, toutes ces familles, qui sont au total 4 familles, vont recevoir seulement, si toute leur maison tribale, toute leur maison a été détruite, ils vont gagner 140 000 dirhams, alors qu'ils sont 4 familles, tu vois. Les 140 000, l'aide qui est donnée par l'État couvre seulement 50 mètres carrés. Ça veut dire que tu peux construire au-delà de 50 mètres carrés, mais eux préconisent, te donnent l'argent pour faire les fondations en béton d'un tabla, ils appellent ça, de la dalle de 50 mètres carrés. Après, voilà, c'est le genre des mots. Ça veut dire que tu as un poulailler, tu as des chèvres, tu as des moutons, tu trouves où les mettre, tu as plusieurs familles qui habitent avec toi, trouve comment faire. Bref, c'est pas. Il y a un écart entre ce que le gouvernement met en place et ce que les gens ont besoin.
Ouais.
Donc, déjà, construire en hauteur, c'est pas ce qu'il y a de mieux au niveau parasismique. Donc, voilà. Il y a énormément d'éléments dans ce qui est en train de se passer pour le séisme. Et prendre 2 minutes pour en parler, ce n'est pas suffisant. Et j'encourage le Maroc à faire au maximum. J'espère juste qu'on aura la réponse la plus effective et la meilleure pour ces populations-là.
Ok, bah
Coupe
écoute.
la fenêtre.
Ah oui, effectivement. C'est pas grave, mais ça je pourrais Ça, je peux le. C'est pas grave. Le son, je peux
Ouais.
le gérer au montage.
Ok.
Bon, ça, c'est. Honnêtement, ça me. Même s'il y a toujours des choses à améliorer, moi, je trouve que ça me donne quand même de l'espoir pour notre futur.
Oui, mais je pense qu'il faut juste qu'on... Il faut juste avoir une approche qui est plus locale. C'est ça le problème.
Peut-être que ça viendra avec notre génération.
Suivez-nous sur Insta et sur LinkedIn, Collectif Adapt.
Je mettrai les liens en description.
Encore plus de travail pour
Ça, c'est pas grave. C'est pour ça que je fais ça. J'adore.
Anas.
Et en parlant d'avenir, je veux une question qui soit. Je veux te poser une question qui soit pleine d'espoir.
Allez,
Ok?
l'espoir, le rêve, moi tu
Parce que
m'adores.
non, mais moi, c'est ce que je veux partager le plus possible. Moi, j'en ai marre du cynisme, j'en ai marre de la dépression et de ce genre de choses.
Le beau, c'est t'inquiète.
Je veux qu'on regarde l'avenir comme un avenir plein de promesses.
Comme des bisounours.
Comme des bisounours.
Bah tu sais, j'avais quelque chose à dire.
Vas-y.
Nos parents nous ont trop protégés et on a un voile de légèreté et de simplicité dans la vie, mais quand tu commences à travailler, tu dois payer ton loyer toi-même et tu fais tout toi-même, c'est dur. Et la vie, c'est dur. Voilà. Donc, gardez votre légèreté d'esprit, c'est hyper important.
C'est pas parce que la vie est dure. Moi, je pense que justement, la beauté de la vie enfin,
Réside dans
réside
la
dans sa
difficulté?
difficulté. A gros désaccord
Moi, je
là-dessus.
veux pas la difficulté, je veux être peace and love. Moi, tu vois, si je pouvais, s'il n'y avait pas le côté financier, etc. Mais la réalité est autre chose, tu vois.
Mais à nous de se battre pour faire de nos rêves une réalité. C'est peut-être totalement naïf de penser comme ça, mais moi j'aime bien. C'est un peu pour ça que j'ai lancé ma chaîne.
Je suis fière de ça, Anas.
Et pour la dernière question, c'est dans un futur parfait, comment tu verrais l'avenir de la construction au Maroc?
Aïe, 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 dans un futur
Dans
parfait,
un futur parfait.
je serai ministre.
Zineb Ministre, c'est la première fois que vous le voyez, c'est sur ma chaîne.
Apparemment, mes rêves, ils deviennent réalité, mais genre, tu vois, à côté de ce que j'ai dit. Peut-être que je serai... Bon, je rigole, mais... Non, j'espère réellement... Une conscience de la richesse patrimoniale constructive qu'on a est essentielle. Voilà, tout le monde le sait. J'ai pas envie de répéter tout ce discours sur. Voilà, je suis pas l'UNESCO, mais on a tellement de chance d'avoir une culture constructive aussi riche qu'il faut vraiment la maintenir. Donc, pour moi, dans un futur parfait, on plante nos villes, vraiment. On a une meilleure gestion de l'eau parce que moi je suis effrayée. Mais parce que ce n'est pas notre réalité, mais c'est effrayant. Quand tu vois un barrage, Raoui, quand tu vois la pluie, comment on est dépendant d'une ressource qu'on ne peut pas contrôler.
Incroyable cette phrase.
Wow.
Incroyable.
Punchline de la journée,
Ah, mais
mais.
ça va passer dans l'intro, hein.
Mais on peut pas continuer à être comme ça. Il faut une meilleure gestion de l'eau, une meilleure gestion des... Ah là là, les déchets, n'en parlons même pas. On a une culture du déchet au Maroc qui est exceptionnelle. Anna, ma mère, chauffe. Et je pense que ta mère, c'est la même chose. Et ta grand-mère, c'est la même chose. Rattrache un truc. Yak. Rattaque le truc. Raison. Rattrache l'eau, etc. Raison, chermel. Après, elle va la composter, elle va se recomposer. Boitant, nullissime, elle va trouver un usage.
Ouais, c'est vrai.
On a une culture du réemploi, du recyclage internalisé au sein de notre famille qui est impressionnante.
Et qui est déjà là.
Et qui est déjà là. Pourquoi faire? Et après, t'as White People qui va venir nous parler de la gestion des déchets, du recyclage. Et je suis un peu en mode genre détente, frérot, hein. Genre vraiment détente. Donc, go, on a tellement de pratiques, Matalan. Alors, moi, pendant mes études, j'ai beaucoup axé mon travail sur les thématiques environnementales et les thématiques de l'habitat. J'ai eu beaucoup de cours, tu vois, quand on devait choisir nos cours, etc., sur ces sujets-là. Et donc, sur la concertation citoyenne, Tu avais le chef de la commune.
Oui, c'est ça.
C'est ça. Les représentants de chacun des douars. Ça fait que nous galsons ensemble. Et tout. Deux femmes parmi 20 hommes. Bon, aucun problème. Mais voilà, et chacun disait, ah, moi j'ai ce problème, moi j'ai ce problème, moi j'ai ce problème. Et ça, CM avec qui on travaille nous explique que justement, c'est un procédé qu'ils utilisent déjà. Ils ont déjà des façons de gouvernance déjà établies dans les populations amazigh. Et ça fait aussi penser aux populations subsahariennes avec l'arbre à palabre. T'as un problème, tu vas en dessous de l'arbre à palabre, tout le monde parle de son problème, t'as un chef, et voilà. Et lui, c'est une personne qui est, c'est le sage. Voilà, c'est la même chose, c'est ce qui s'est passé à Tafla. Et on va commencer à me parler de concertation citoyenne, tu vois. Donc je suis un peu en mode genre, doucement, tu vois, on sait vraiment ce que c'est la concertation citoyenne. Donc voilà, on a tellement des ressources incroyables, un patrimoine exceptionnel qui attend juste d'être révélé et d'être... qu'on arrête de prendre des modèles occidentaux et qu'on vienne nous les appliquer dans nos pays. J'espère vraiment, on doit conclure cette vidéo, mais... j'ai eu une discussion avec quelqu'un que j'apprécie énormément, qui est français et qui a voyagé partout dans le monde, qui a habité dans 1000 pays, bref, qui est très ouvert vers le monde, etc. Et qui me dit, ouais, mais déjà vous avez un roi, le problème, enfin, déjà monarchie, déjà ça c'est bizarre. Et je suis un peu en mode, en fait, en France, les royalistes sont hyper mal vus, tu vois.
C'est vrai, c'est vrai.
Et du coup, nous...
alors que nous, ça fait partie de nous. Ça fait partie
mais
de
nous,
notre
on est
histoire.
Une monarchie, donc c'est
on
comme ça.
On est une monarchie.
On ne parle pas de la monarchie. Je sais qu'il y a des gens... bon, il y a plusieurs courants de Marocains et qu'est-ce qu'ils pensent de la monarchie, ce n'est pas du tout le sujet. Mon sujet, c'est de dire que nous, on est une monarchie. Donc pour eux, déjà, quand tu as un roi, c'est bizarre, tu vois.
Ouais.
Et parce que eux, quand tu n'as pas de république, il y a un problème.
Alors qu'on a une démocratie dans le pays.
Ça, ce n'est pas le sujet. Allez, on va passer sur YouTube. Mais non, je ne veux pas parler politique, ce n'est pas mon but. Mon but, c'est de dire que, tu vois, pour eux, la démocratie passe par la République, alors que nous, la démocratie passe par la monarchie. Et donc, on doit arrêter d'appliquer des systèmes occidentaux à des systèmes qui ne le sont pas, parce que ce n'est pas compatible.
Oui. C'est-à-dire qu'on peut s'inspirer de ce qui fonctionne et de ce qui est adaptable à notre situation, mais il ne faut pas non plus qu'on rejette tous les apprentissages de nos... de notre culture, de notre tradition, et des systèmes qui fonctionnent déjà.
Mais en fait, nous, on s'en fout de comment l'Occident nous voit. Pour eux, t'es un roi, t'es à côté de la plaque. L'Angleterre, c'est quoi, s'il te plaît? C'est pas une monarchie?
Si, exactement.
Le Canada, la Suède, la Belgique, l'Espagne, eux, ils ont pas de roi. Il y a que nous qui avons un roi.
Ils ont un roi aussi.
Tu vois, et donc ça me saoule d'avoir... enfin, c'est pas que ça me saoule, c'est que quand t'es en France en tant que Marocain et qu'on te perçoit comme ça... c'est une très belle comparaison de comment nous, on applique leurs lois à eux, chez nous, tu vois. Donc, chacun fonctionne de sa manière et consommer local. C'est ça mon propos.
Consommer local. Honnêtement, ça, c'est vraiment une question que... je pense que ça sera réservé à un prochain podcast où j'aimerais vraiment qu'on parle de, tu sais, notre double identité, éducation française, héritage marocain. Ça, c'est... je pense que ça mériterait un podcast à lui tout seul. On devrait inviter plein de monde, faire une table ronde et en parler. Ça pourrait être super intéressant, parce que je pense que c'est quelque chose qui nous définit et qui nous définira encore pendant de nombreuses années.
C'est bien d'être hybride, mais parfois c'est dur. Voilà, ouais. C'est ça ma conclusion.
Ouais.
C'est riche d'être hybride, mais c'est dur mentalement. Tu sais pas, le Kamous, il est où, tu ne sais pas. Quoi.
Ta maison de rêve?
Ah, j'ai fier ma Marrakech.
Elle a tout dit.
Une ferme à Marrakech.
Elle a tout dit. Magnifique. Bah écoute, Zineb, merci beaucoup. Moi, j'ai adoré notre discussion.
Moi aussi, j'ai passé un si bon moment, c'était génial.
Ah, c'était top. Honnêtement, j'espère que vous, de votre côté, ça vous a plu. Premier épisode de podcast. Je pense en faire plusieurs autres avec d'autres architectes. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire. Et en vrai, si vous êtes toujours resté jusque-là,
c'est
ce que vous faites, abonnez-vous.
C'est ouf, je t'interromps, Anas, je veux juste passer un dernier message.
Oui, bien sûr.
Je suis très bavarde.
Non, avec
mais
plaisir.
Mais faites quelque chose que vous aimez, parce que sinon vous allez être triste.
Exactement.
Cœur.
Alors ça, si on devait retenir une seule chose de notre discussion, et une seule chose de ce podcast, et une seule chose de ma chaîne, faites ce que vous aimez, et faites-le avec passion.
J'ai les larmes aux yeux. Je suis touchée.
Il y a des émotions, il y a tout dans ce podcast.
C'était intense.
C'était intense. En tout cas, j'ai adoré tourner cet épisode avec toi.
Moi aussi,
non, la Saraha, c'était génial. C'était beaucoup mieux que ce que je pensais. Ben, je vous dis à la prochaine.
À la prochaine, guys. Bye.
J'adore.